Paul avoir trouvé un ajout pour l'émission Dialogue entre Congolais.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Province du Nord Kivu, le gouverneur dénonce l'insécurité croissante dans plusieurs territoires et craint que cette insécurité soit exploitée par les politiciens à des fins ethnicistes et de guerre civile comme il y a 15 à 20 ans. Comment analyser cette déclaration du gouverneur du Nord Kivu? Quelles sont les mesures prises pour le bon déroulement des élections dans cette partie du pays? Nos invités dans cette émission sont Justin Bitakwira, député national et secrétaire national de l'Union pour la Nation Congolaise chargé de l'idéologie et formation, porte-parole de Vital Kamerhe, également recteur de l'École nationale du Parti académique Congo Conscience et Développement. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir. Voilà, le professeur Virgence va nous recevoir, nous allons le recevoir d'un moment à l'autre. Nous vous avons annoncé, le vice-gouverneur Feller Lutai Chiroua, malheureusement, je vous annonce que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué de l'exécutif provincial du Nord Kivu sont restés vains. Nous avons à la place Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Luneno, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vraiment pris à pied levé à quelques minutes du début de cette émission. Vos réactions, chers auditeurs et internautes, sont déjà très nombreuses. Jean-Luc Niembo de Goma en Nord Kivu. Le gouverneur Paluku a raison car la recrudescence soudaine de l'insécurité à la veille des élections est un arbre qui cache la forêt. Clovis Paluku de Goma en Nord Kivu. Quand un gouverneur qui est la première autorité d'une province nous dit craindre la montée de l'insécurité, alors nous, population, nous nous demandons quel est son rôle, si ce n'est celui de chercher des réponses aux problèmes de la cité. Bref, notre gouverneur est devenu trop plaintif qu'il nous dise ce qu'il a déjà pris comme mesure face à cette situation. S'il lui doit se plaindre, que fera la pauvre population? Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Le gouverneur du Nord Kivu dénonce l'insécurité croissante dans plusieurs territoires de la province. Insécurité sur les routes, insécurité également dans des villages, Amasisi, Rutshuru, Lubero et Beni, indique-t-il. Julien Paluku dit craindre que la montée de l'insécurité dans sa province soit exploitée par des politiciens à des fins ethnicistes et donc de guerre civile, comme il y a 15 à 20 ans. Le gouverneur du Nord Kivu a fait cette déclaration samedi dernier à Goma au lendemain de son retour de Kinshasa, où il a pris part à la deuxième session de la conférence des gouverneurs de province. Suivez l'appel lancé par le gouverneur à la population du Nord Kivu. Ses propos sont recueillis par Jules Ngalawamona.
Maintenant que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils deviendront demain, ils cherchent à passer par des manipulations de leurs ethnies pour s'attirer un certain nombre de populations et de voix. Parce que les acteurs politiques ne survivent que lorsqu'ils sont acteurs dans des institutions. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils ne sont plus acteurs dans des institutions, c'est leur fin et c'est la fin du monde. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'un acteur politique arrive devant une foule, devant une population, il faut que la population se pose la question si cet acteur vise des objectifs communs pour que la population sorte de son isolement socio-économique ou si cet acteur est en train de poursuivre ses propres intérêts. Je crois que si la population commence à se poser ce genre de questions, elle va refouler même un certain nombre d'acteurs qui viennent simplement la manipuler ou la tromper pour ses fins propres.
Merci Jason Luneno, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu et à l'intention de tous nos auditeurs, juste signaler que le vice-gouverneur Feller Lutai Chiroua que nous avons annoncé ne pourra plus prendre part à cette émission, il vient de se désister à la place, comme je le disais dans mon introduction, nous avons pratiquement pris à pied levé à quelques minutes de cette émission, Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu. Dites-nous Jason Luneno, comment vous avez accueilli cette déclaration du gouverneur Julien Paluku.
Je vous remercie d'abord de m'avoir associé à cette émission, une émission très très importante pour nos sociétés civiles parce que Vous savez, la période que nous sommes en train de traverser, c'est une période très, très cruciale, parce que ce qui se passe et ce qui est en vue pour les échéances électorales, pour à suffisance que c'est une période très, très cruciale, surtout dans cette partie du pays où la population attendait beaucoup du pouvoir et que rien alors n'a été fait. Je pense que les moments qui arrivent sont des moments très, très, très importants et très cruciaux, et pour lesquels donc ceux qui sont au pouvoir devraient prendre leurs dispositions pour que les élections se passent dans des moments, dans des conditions, je peux dire, les plus apaisées possibles. Donc pour moi et pour la société civile, lorsque nous avons entendu les discours du gouverneur de province, nous nous sommes posé la question, il fait ce discours dans quel cas? Est-ce qu'il est dans les camps de la société civile ou bien il fait le discours dans les camps de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui? Parce que il n'y a pas longtemps, les gouverneurs de province étaient en conférence et ils ont été autour du président de la République et ils ont parlé des questions cruciales, notamment celle des élections, où les occasions sont données pour parler clairement du bilan du pouvoir actuel et où chacun devra s'exprimer pour essayer de voir comment il peut avoir la confiance du peuple. Et nous n'avons pas entendu de la part du gouverneur de province ce que la conférence de gouverneurs avec le président de la République a arrêté pour la sécurisation des élections. Et nous avons été surpris, nous autres, d'attendre le gouverneur de province se plaindre. Mais lorsque le gouverneur dit que il sait que il y aura manipulation des populations par les acteurs politiques. Les acteurs politiques, nous savons que ceux qui sont au pouvoir sont aussi parmi ces acteurs politiques qui vont devoir manipuler la population et qui peuvent profiter des questions ethnicistes pour essayer de replonger la province d'Orkivu dans les chaos. Nous, société civile, lorsqu'on dénonçait la mauvaise intégration des FARDC, des éléments qui sont venus des groupes armés, lorsqu'on dénonçait les exactions qui sont commises par les FARDC et par certains éléments de la police, lorsque nous continuons à dénoncer, mais le pouvoir nous a écoutés, le pouvoir nous a fait entendre des bonnes choses et des bonnes réponses nous étaient données. On nous a promis la paix. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que lorsque vous entendez même les porte-paroles du gouvernement et les différents ministres dire que il y a la paix, il y a la sécurité, et aujourd'hui qu'on nous dise que non, il n'y a pas la paix, il y a des craintes, nous craignons que ce qui est en train d'être dit aujourd'hui ne soit vraiment toute une montagne qui cache certaines choses. Et nous pensons que le peuple congolais est averti qu'on est en train maintenant d'annoncer qu'il y a l'insécurité qui bat son plaid et qu'on peut rentrer dans des situations telles que nous les avons vécues. Mais nous, on a dénoncé ça, on a fait des mémorandums, on a fait le plaidoyer, on a fait des déclarations, on a fait des contacts et des audiences. Et on ne nous a pas écoutés. Lorsque nous dénoncions, lorsque nous continuons à dénoncer, même jusqu'à présent, qui est celui-là qui nous a écoutés? Personne n'a été à l'écoute du peuple. Mais maintenant que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui remettent la question de l'insécurité que nous avons toujours décriée dans la rue, ils remettent cette question dans la rue, et nous, on se pose la question, qui va maintenant s'occuper de nous aujourd'hui?
Jason Luneno,
qui va s'occuper de nous demain? Lorsque nous allons faire la sensibilisation, lorsque les différents acteurs politiques vont défendre sur terrain pour essayer d'amener la population à voter pour eux, nous craignons que ce qui a été déclaré ne soit une véritable fuite en avant, parce que de Walikale jusqu'à Eringeti, la situation est intenable. Écoutez, hier, je me rendais à Sake, et à quelques 3 km de Sake, en Zulu, des militaires FARDC ont tiré à bout portant sur des civils qui étaient dans le véhicule. Et il y a eu des morts. Et écoutez, lorsque les éléments qui sont commis à la sécurité de la population doivent commettre des exactions, doivent tuer, doivent massacrer la population, qui est responsable? Moi, nous pensons que nous, société civile, nous allons maintenant regarder les responsables, les gouvernants, comme état auteur de cela que nous sommes en train de considérer comme agents de sécurité. Ce sont eux maintenant qui sont les responsables de tout ce que nous sommes en train de subir comme violation grave des droits de l'homme, parce qu'ils n'ont pas mis le moyen, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. Les autres pour la sécurité des gens et des personnes.
Donc, si je vous comprends, la situation sécuritaire sur terrain n'a pas évolué.
Elle n'a pas évolué, elle est devenue beaucoup plus catastrophique. Mais imaginez, il ne suffit que vous puissiez annoncer votre candidate. Il y a des candidats députés ici qui ont annoncé, qui se sont annoncés et qui ont été visités. Il y a d'autres qui sont en train même de désister à se porter candidat dans certains partis politiques de l'opposition. Parce que on les visite et on les menace. Il y a des SMS qui tombent sur le téléphone des gens, des candidats, des personnes qui ont des ambitions à se porter candidat dans certains partis de l'opposition.
Merci.
Et où est-ce que nous allons?
Merci.
Que nous allons avec ça?
Merci Jason Luneno, Justin Vitakwira. Je rappelle que vous êtes député national et secrétaire national de l'Union pour la Nation Congolaise, chargé de l'idéologie et formation, également porte-parole de Vital Kamerhe. Comment vous analysez cette déclaration du gouverneur du Nord Kivu?
Oui, je disais aussi que je suis recteur de l'École nationale du parti, Académie Congo Conscience et Développement. D'abord, je vous remercie de m'avoir associé à ce débat, parce que j'avais suivi le gouverneur dans sa déclaration. Je dois vous rassurer que je ne l'avais pas reconnu. Je ne l'avais pas reconnu. Je me suis posé la question si c'était un gouverneur à qui la population du Nord Kivu peut compter pour sa sécurité. Ou bien c'était un gouverneur qui est plutôt au service de sa hiérarchie. Sa hiérarchie pour dire si il donne le rapport exact de l'insécurité persistante dans le Nord Kivu, peut-être qu'il perdrait quelques galons. Il perdrait quelques galons. Donc nous, effectivement, à l'Union pour la Nation Congolaise, nous appelons notre école comme étant un centre national de nettoyage des consciences. Nettoyage des consciences pour dire que tous ceux qui nous gouvernent, normalement, ils devraient refléter les aspirations profondes de leurs administrés. Malheureusement, quand j'ai suivi le gouverneur du Nord Kivu, une province que je connais assez bien par rapport avec ce qui s'y passe, aujourd'hui ou demain, à chaque une heure, à chaque deux heures ou trois heures, il y a au moins quatre ou cinq Congolais tués, des fois par balle, on visite leur maison, ils collent cette insécurité au niveau des acteurs politiques, je ne l'ai pas reconnu. Donc, pour nous, nous disons que même quand Vital Kamerhe présente pardon à la population, beaucoup de gens ne comprennent pas le sens. Le président Joseph Kabila a été élu à l'Est parce qu'il avait promis la sécurité et la paix. Beaucoup de femmes criaient même qu'on peut même leur arracher leur sein à cause de lui parce qu'il aurait terminé la guerre, il aurait amené la paix et la sécurité avec le stylo. Maintenant, les 5 ans de son élection, ça je vous le dis, s'il y a une province, s'il y a des populations qui ont souffert pendant les 5 ans ici, c'est singulièrement les populations du Nord Kivu, que ce soit Lubero, dont est originaire le gouverneur, que ce soit à Beniville ou à Beni Territoire, que ce soit à Irengeti, que ce soit à Masisi ou à Rutshuru. Moi, je vous dis que si le gouverneur était conscient et si le gouverneur est là pour défendre les intérêts de ses administrés, je me pose la question, après sa déclaration, qu'est-ce qu'il a amené comme contribution à la conférence des gouverneurs? Donc, moi, personnellement, je me dis que c'est une fuite en avant. Parce que les élections qui s'annoncent, comme il n'y a pas paix, il n'y a pas sécurité dans cette partie de la République, nous sommes en train de craindre effectivement que le pouvoir, qui sait, qui n'a pas donné à cette population ce qu'il lui a promis, va échouer certainement dans cette partie de la République. C'est ainsi que le gouverneur commence à jeter l'éponge sur les acteurs politiques. Quant aux différentes tribus ou ethnies qui sont dans le Nord Kivu, moi je vous dis, que l'insécurité, comme le viol qui s'opère, ne choisit pas un Tutsi, un Hutu, un Ande, un Mui, ou je ne sais pas quoi.
Quel qu'il soit en fait.
Oui, donc on ne choisit pas. On ne choisit pas. Donc pour moi, je me dis que c'est un gouverneur qui a été infidèle par rapport à ses responsabilités. Au Nord Kivu, les gens souffrent, ils ont besoin de l'appui du pouvoir actuel. Et le pouvoir actuel, au lieu de nous présenter le bilan sur le plan sécuritaire, il est en train encore de continuer à nous faire des promesses. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je disais que si le président Vital Kamerhe a toujours présenté des excuses à la population partout où il est passé, c'est pour dire qu'effectivement, ce que le pouvoir avait promis qu'il aille dire à la population, rien n'a été fait. Et c'est ainsi que nous disons, nous attendons ce pouvoir au tournant et que le gouverneur s'en prenne à lui-même et au pouvoir actuel, pas à qui que ce soit, à un opérateur économique et politique quelconque.
Merci, honorable Justin Bitakwira. Juste rappeler à l'intention de tous ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous n'avons malheureusement aucun répondant du côté du gouvernement provincial du Nord Kivu. Tous nos efforts pour avoir un délégué dans cette émission sont restés vains. On a même annoncé le vice-gouverneur Feller Lutai Chiwa en dernière minute qui s'est désisté. Professeur Pierre Virgence, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, oui.
Professeur, vous avez également suivi cette déclaration du gouverneur du Nord Kivu pour l'honorable Bitakwira. C'est le gouverneur cherche des boucs émissaires. La société civile a pratiquement abondé dans le même sens. Quelle est votre analyse?
Je pense qu'on peut déjà diviser les déclarations du gouverneur Julien Falucu en deux parties. Dans la première partie, il se plaint du fait qu'il y a de l'insécurité sur les routes. Et il cite des territoires précis du Nord Kivu. Ça, c'est une réalité, et il faut bien se dire que dans le Nord Kivu, cette insécurité, elle est structurelle. Elle ne date pas de la semaine dernière ni du mois dernier. Elle a été, je dirais, quasiment continue depuis le début de la guerre en 1996. Et on peut dire que d'une certaine manière, il n'y a jamais eu un véritable retour à la paix, parce qu'une fois que des gens sont rentrés dans, je dirais, le banditisme comme façon de se nourrir, ils trouvent évidemment que c'est moins fatigant de continuer à faire du banditisme que de rentrer dans la société civile. Il y a des gens qui restent comme ça, il y en a d'autres par contre qui ont suivi, on le sait, les chemins de démobilisation et qui se sont réintégrés. Mais il reste des gens qui sont, je dirais, passés du statut de maï-maï au statut de simplement bandits de grand chemin. Ça existe, ça a toujours existé depuis la guerre et on peut dire que depuis l'élection de 2006, ça n'a pas diminué. Par moment, ça a diminué un peu, mais en gros, on peut dire que la population du Nord Kivu continue à souffrir de ces pillages sur les routes, qu'on appelle parfois d'ailleurs des péages, mais en réalité, on a plus l'impression que ce sont des pillages. La deuxième partie de la déclaration du gouverneur Falucu, c'est une mise en garde de la population sur le fait que certains acteurs politiques pourraient utiliser la violence qui règne au Nord Kivu comme une arme électorale et une arme qui servirait à faire monter les populations, les différentes ethnies, les unes contre les autres. Là, sur le fond, on peut se dire qu'il a évidemment tout à fait raison. C'est un risque que certains hommes politiques utilisent et manipulent la population pour monter la population contre les populations voisines. Mais en même temps, on a un peu envie d'entendre ce que vos deux interlocuteurs viennent de dire, bien, peut-être qu'il faut aussi appliquer cette grille d'analyse au discours du gouverneur lui-même et se demander si en faisant un lien entre certains hommes politiques et une attribution de la violence à une ethnie, il n'est pas déjà en train de préparer une montée de la tension qui serait alors fort inquiétante. Ce n'est qu'un premier pas, on peut espérer qu'il n'y aura pas de deuxième pas dans cette direction-là, mais c'est un pas, on ne sait pas si en faisant cela, et là vos deux interlocuteurs précédents l'ont dit de façon beaucoup plus virulente que ce que je ne pourrais dire, parce qu'évidemment je ne suis pas engagé comme eux dans la vie politique et sociale, mais on pourrait se dire d'une certaine manière qu'on ne sait pas trop si le gouverneur parle en tant que gouverneur qui gère l'intérêt commun de l'ensemble de la province ou en tant que homme politique dont évidemment la réélection va aussi être en jeu dans le cours du processus électoral.
Professeur Virgence, on sait que dans cette partie du pays, il y a eu beaucoup d'opérations militaires. Cette déclaration du gouverneur ne les remettrait-elle pas en cause?
Mais ça, ce n'est pas sûr, puisqu'ici, il n'a fait aucun lien, en tout cas, entre le banditisme sur les routes et les responsables de ce banditisme. Vous venez d'entendre certains interlocuteurs qui attribuaient une part significative de la violence et de l'insécurité à des membres des forces armées de la République démocratique du Congo, et on n'a pas du tout vu ça dans l'intervention, ni entendu cela dans l'intervention du gouverneur du Nord Kivu. Donc là, on ne voit pas chez lui un lien entre des opérations militaires et l'insécurité. Il n'y a pas eu, me semble-t-il, dans ce que j'ai eu sous les yeux et dans ce que j'ai entendu de ces déclarations, il n'y a pas eu de mise en cause de sa part, une mauvaise gestion de la question sécuritaire au Nord Kivu. Il a l'air de considérer que voilà, ben, cette insécurité règne comme si elle était un peu tombée du ciel. Il pleut, il y a de l'insécurité, et je n'ai pas lu qu'il y avait une mise en cause de la responsabilité de l'insécurité.
À bien comprendre les déclarations de l'honorable Bitakwira et de Jason Luneno, est-ce qu'on pourrait parler d'un aveu d'échec de la politique sécuritaire au niveau provincial?
Mais là, évidemment, ils parlent, eux, en leur nom propre, hein, et en tant qu'acteurs politiques et sociaux, ils prennent leur liberté de parole et leur liberté d'expression en République démocratique du Congo, ils ont bien raison de le faire. Mais il est vrai que dans ce qu'on peut constater quand je vais donner les cours à l'université de Butembo, c'est qu'effectivement une grande partie de la population analyse l'insécurité comme étant non seulement le fait de bandits dont j'ai parlé tout à l'heure, mais comme étant aussi éventuellement une stratégie politique, plutôt même d'ailleurs une incurie politique. Et donc là, il y a effectivement de la part d'une grande partie de la population un soupçon vis-à-vis des pouvoirs, sans qu'on puisse maintenant identifier qui est là derrière, puisqu'on sait que le pouvoir, il est multiforme, malgré la forme hiérarchique de principe de la République démocratique du Congo. J'ai toujours l'impression que la chaîne de commandement soit respectée à tous les endroits dans les forces armées. Et donc là, il y a effectivement une remise en cause par beaucoup de membres de la population du Nord Kivu de la politique sécuritaire. Ça, c'est tout à fait évident. Et on en a déjà parlé. On ne sait pas du tout comment la population va réagir au moment des élections. Il est possible qu'elle se dise que l'insécurité actuelle est le fruit de la mauvaise politique du pouvoir actuel, du parti qui est actuellement au pouvoir, et dès lors qu'elle veuille sanctionner ce parti. Par ailleurs, elle pourrait aussi faire l'analyse inverse, si on veut, de se dire que ce parti a peut-être réussi à ce que l'insécurité n'augmente pas beaucoup plus qu'auparavant, et que peut-être un autre parti n'aurait pas pu faire mieux.
Merci.
Et qu'en tout cas, ce n'est pas sûr qu'on ne tomberait pas sur pire encore en faisant un autre choix. Et là, on ne sait pas comment la population va évaluer et sanctionner, je dirais, les acteurs politiques.
Jason Luneno, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Il y a cet auditeur qui nous écrit de Kananga au Kasai occidental, Norbert Dibelaï, qui dit « La déclaration du gouverneur Julien Paluku est non fondée. Comment peut-on expliquer que l'insécurité dans cette province ne cesse de croître pendant que nous approchons des élections? C'est comme si cette situation est entretenue au profit d'une certaine classe politique. » Le professeur Virgence a parlé tout à l'heure des soupçons de la population à l'endroit des politiques en général.
Bon, je pense que ce qui se passe dans cette province est le résultat d'une mauvaise planification des opérations, donc de l'intégration de tout ce qui a eu comme éléments qui ont appartenu dans les groupes armés. L'intégration de ces éléments dans les FARDC, la constitution des régiments, et la mise en place des secteurs n'a pas permis à ce que aujourd'hui il y ait la cohésion entre les éléments sur terrain, mais aussi il n'y a pas une véritable confiance entre les différents éléments qui sont sur terrain ici. C'est que aussi nous pouvons continuer à dénoncer, c'est que il y a un programme à Mani et il y a aussi le commandement de la région militaire, des structures dans une même structure qui opèrent les unes pour la stabilisation et les autres pour l'administration pure et simple donc de l'armée dans la province. Donc cette déstructuration d'une armée amène à ce qu'aujourd'hui nous puissions connaître ce que nous connaissons. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les anciens éléments qui ont évolué ici se sont retrouvés sur les mêmes espaces, dans leurs villages, dans leurs collines, en train toujours de continuer à rendre service au gouvernement, mais les attitudes et les comportements n'ont pas changé. Et ici, pendant que nous nous battons pour que nous puissions avoir une véritable armée, je vous dis qu'il y a encore des défections. Il y a des troupes qui s'étaient déjà intégrées dans les FARDC et qui, malheureusement, compte tenu de ce qu'elles sont en train d'observer, beaucoup d'éléments FARDC sont encore en train de quitter les FARDC pour la brousse. Ça sont effectivement des maïmaï qui voient comment l'organisation, la gestion et la discipline qui devait être observée au sein de ces unités n'est pas faite aujourd'hui et les déclarations des uns des autres n'assurent pas ou bien ne rassurent même personne sur une véritable sécurité qui pourrait être assurée par les FARDC. Nous, on dit que à partir du moment où on a voulu mettre sur pied une armée qui est un ensemble, un tout, qui est formé, qui est déterminé à rendre un service et que cela ne soit pas fait dans l'objectif d'avoir une véritable armée nationale, mais des groupes qui opèrent toujours comme ils opéraient un peu avant, et qui peut-être jusqu'à présent, même l'obéissance à un commandement unique n'est pas en train d'être observée. Et donc, merci. Des commandements au sein d'un commandement. Aujourd'hui, nous, on se dit, mais qui est écouté ou bien qui commande les unités par-ci, par-là, sur l'ensemble de la province.
Merci.
Vous allez vous retrouver que ce qui se passe, tel que l'auditeur l'a dit là-bas, à partir de ce que le gouverneur a déclaré ici, franchement, nous avons une armée désarticulée et nous vous disons que ce que nous observons tous les jours, ce que nous vivons tous les jours, est-ce que cela n'a pas été voulu ainsi ? Pour que nous puissions nous dire aujourd'hui que ça pourrait être récupéré par les politiciens pour des questions ethniques, ou bien ça pourrait encore nous ramener dans des situations telles que nous les avions vécues.
Merci.
Nous pensons que peut-être ça a été planifié.
Honorable Justin Bitakwira, le professeur Virgence, dans sa deuxième assertion, parlait de la mise en garde du gouverneur à la population pour que la violence, cette insécurité au Nord Kivu ne soit pas utilisée comme stratégie électorale. Le gouverneur n'a-t-il pas raison sur ce point?
Oui, effectivement, j'ai suivi le professeur Virgence. Il a qualifié dans son raisonnement au deuxième point d'une arme électorale. Et moi, avant que je n'abonde dans le même sens que le professeur Vérience, je vais d'abord vous dire que nous, à l'Union pour la Nation Congolaise, nous avons un programme de la sous-région pour que la paix et la sécurité reviennent. Je vais d'abord vous dire que ce n'est pas une question des ethnies ou des tribus, c'est une question des comportements. Et nous, effectivement, au niveau de la RDC, du Rwanda et du Burundi, nous pensons que dans la sous-région, une fois l'UNC au pouvoir, nous devons avoir des relations, je m'excuse, nous devons avoir des relations sécuritaires.
Bon, ce n'est pas déjà la campagne.
Non, c'est pas la campagne.
Je vous prie de donner votre point de vue.
Nous allons avoir des relations sécuritaires, économiques, diplomatiques, politiques, gagnant-gagnant.
Là, c'est-à-dire, déjà dans les solutions.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut que le Rwanda profite de cette paix, et en même temps la RDC doit bénéficier de cette même paix, et en même temps le Burundi Donc, pour nous, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de tribu.
Alors, le gouverneur n'a-t-il pas raison?
Je vais y arriver. Le gouverneur nous fait perdre une occasion en or. Parce que pour l'insécurité, dans le Nord Kivu, en particulier dans l'Est en général, nous avons besoin de la solidarité nationale. La solidarité nationale dans ce sens que moi, à l'Assemblée nationale, nous avons été victimes d'un comportement des collègues députés qui effectivement pensaient que nous étions même les auteurs de notre propre malheur. Maintenant, quand ça sort de la bouche du gouverneur, comme quoi effectivement ce sont des acteurs politiques, ils ne voient pas les ADF Nalu, ils ne voient pas les FDLR, ils ne voient pas le comportement un peu barbare de certains éléments de FARDC pour imputer cette
insécurité. Des éléments incontrôlés.
Oui, des éléments incontrôlés de FARDC pour imputer aux acteurs politiques. Je crois que c'est un échappatoire. Je veux revenir à l'analyse du professeur Vergence, qui a dit effectivement qu'il y a certaines personnes qui ont changé de statut. Le statut de Maïmaï en statut de bandit de grand chemin. C'est vrai, vous savez que l'appétit vient en mangeant. Une armée, qu'est-ce que c'est? Quand vous remettez une armée à quelqu'un et vous l'affamez, il n'est pas payé. Même dans le pipeline de la paye des militaires, si vous voyez ceux qui ont accès à la paye des militaires, que ce soit dans le Nord Kivu ou ailleurs, ceux qui font de cet argent-là pour y construire des bâtiments, des immeubles à gauche, à droite. Maintenant, ce monsieur à qui vous avez remis l'arme, il est affamé. Il ne peut pas soigner son enfant. Il ne peut pas soigner sa famille. Quel comportement attendez-vous de lui?
Alors, puisqu'on est déjà dans la deuxième partie pratiquement de l'émission, déjà en ce qui concerne les solutions, Jason Lounenou a parlé de la réforme de la police, de l'armée, mais il y a une loi qui traîne au Parlement à ce sujet.
Oui. Avant que je parle de la loi, parce que je suis parlementaire, je voulais dire au gouverneur Paluku, je voulais lui dire que nous avons lu la lettre de l'évêque Sikouli, qui est de Boutembo Béni. C'est deux langages diamétralement opposés entre le gouverneur et l'évêque. Or, un évêque, il a d'abord une garantie morale. Il a cette garantie d'objectivité.
Revenons à la réforme de l'armée parce que le temps ne nous attend pas.
Nous pensons effectivement que ce n'est pas à la veille des élections qu'on va nous parler de la réforme de l'armée.
Mais c'est une loi qui a pris beaucoup de temps au Parlement.
Nous avons besoin du bilan.
Vous avez donné priorité à autre chose.
Nous avons besoin du bilan, monsieur. Vous savez avec quel accélérateur on a amendé la Constitution de deux tours à un seul tour. Vous savez quel accélérateur ça a pris? Pas moins de 112 heures. Si le gouvernement pensait qu'il y avait urgence pour la réforme de l'armée, pourquoi il ne peut pas utiliser le même accélérateur qu'il a utilisé pour amender la Constitution?
Un autre auditeur, honorable Bitakwira, Jacques Asungé de Bukavu Sud Kivu, le gouverneur Paluku devrait inviter tous les notables pour instaurer la paix au Nord Kivu. Vous pensez que c'est une solution, rassembler tous les notables pour un dialogue communautaire?
Non, moi je pense que le pouvoir actuel, c'est quand même pouvoir envoûté.
Ce n'est pas un terme trop fort,
c'est
ça?
Non, c'est pas.
Veuillez le retirer pour tous ceux qui nous suivent.
C'est-à-dire un pouvoir qui n'a pas de chance. Vous suivez avec moi comment les différents chefs coutumiers de la République défilent à Kinshasa pour venir adhérer soit au parti au pouvoir. Mais les chefs coutumiers, c'est un thermomètre national. Les chefs coutumiers, c'est plus même qu'un référendum. Mais aucun de ces chefs coutumiers, aucun de ces notables ne vient effectivement pour exprimer les aspirations profondes de sa population. Ils viennent plutôt pour essayer de voir quelle est leur part de gâteau. Donc, le pouvoir a tous les mécanismes, il a toutes les possibilités entre ses mains pour savoir exactement ce qui se passe, mais il n'a pas le temps.
Professeur Pierre Virgence, je rappelle que vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Quelles devraient être finalement les solutions, professeur, pour que les élections qui vont arriver se déroulent dans des bonnes conditions dans cette partie du pays?
Mais je crois que la solution avait déjà été pratiquée en 2006, puisqu'en 2006, alors qu'on est porté d'une guerre qui avait été quand même très meurtrière, hein, ne l'oublions pas, c'est dirais comme la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale dans le monde, on sortait de cette guerre et en 2006, on a quand même réussi à ce que le jour des élections, il y ait une libre circulation et donc que les électeurs ont pu se déplacer. Ça veut donc dire qu'il y a moyen de négocier avec l'aide des évidemment de la communauté internationale qui est présente sur place avec la MONUSCO pour le moment, mais aussi en négociant avec les personnes les plus responsables parmi les troupes, par, je dirais, politisées, ceux qui restent des Maï-Maï, avec aussi, évidemment, les militaires. Donc là, il y a moyen de faire une négociation globale, comme elle avait été menée en 2006. Je pense que là, on avait eu déjà des jours de 13 qui ont permis aux électeurs d'aller voter. Donc, ça, c'est très ponctuel, je dirais. Ce n'est pas une solution de paix à longue échelle. À long terme, je pense que le problème est bien un petit peu, comme vient de le dire l'interlocuteur précédent, du fait que il y a tellement de sollicitations, je dirais, à la limite de la corruption vers le pouvoir, que c'est très difficile de maintenir une cohésion et une vraie politique globale au Congo, puisque chacun demande un petit morceau, une exception en quelque sorte à la règle générale. Et ça, c'est évidemment très difficile de stabiliser le pays dans ces conditions-là, mais on peut espérer quand même qu'il y ait des règles générales qui s'imposent au fur et à mesure, parce que les hommes politiques auront des comptes à rendre. Moi, je pense que malgré l'envie que tout le monde a que la paix arrive très vite dans le Nord Kivu, il faudra compter sur plusieurs élections pour que les responsables politiques se rendent compte que s'ils ne font pas la paix, les électeurs ne les rééliront pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils auront la responsabilité réelle, c'est-à-dire le devoir de répondre de leurs actes devant la population, et c'est après les prochaines élections et après les élections suivantes que la paix viendra, parce que les hommes politiques se rendront compte que ceux qui sont facteurs de guerre, eh bien, ils seront punis par les électeurs.
Merci.
Mais pour ça, évidemment, il faut compter sur le temps et la sagesse.
Merci, professeur Pierre Virgence. Juste rappeler à nos auditeurs que vous avez adressé beaucoup de questions aux autorités provinciales du Nord Kivu. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons eu aucun délégué de l'exécutif provincial du Nord Kivu pour répondre à toutes vos préoccupations. Jason Luneno et à Omer Nzala de Beni au Nord Kivu qui dit « L'insécurité au Nord Kivu semble être entretenue par les politiciens eux-mêmes. Pour y remédier, il faut que l'exécutif central laisse la justice faire son travail, qui est mutation régulière des militaires, chaque fois après 6 mois, que les militaires soient également bien motivés pour veiller à la sécurité des frontières. » Quelle est votre analyse par rapport aux solutions?
Bon, moi je pense que l'auditeur, je peux dire qu'il a survolé la question à deux niveaux. Les politiciens, pour moi, ne sont pas en train d'entretenir l'insécurité. Je peux plutôt, pour nous, société civile, regarder le pouvoir. Les gouvernants actuels sont, pour nous, les responsables de cette insécurité que nous sommes en train de subir. Parce que, vous savez, jusqu'à présent, nous avons dans les villes et dans les territoires, un peu presque partout, même dans la ville de Goma ici, des jeeps, des officiers qui continuent à circuler avec des armes lourdes, et avec un effectif, des éléments qui circulent un peu presque partout, qui dépassent même 10 à 15 dans une même Jeep. Pour toute la journée, la nuit, ainsi de suite.
Alors, quelle serait la solution pour vous, Jason Luneno?
La solution pour nous, c'est que tous ces militaires qui sont en train de circuler devaient être cantonnés, devaient être aujourd'hui essayés donc de rentrer dans les camps, et ceux qui sont en opération reste en opération contre l'Est de l'air. Et que la police nationale congolaise soit renforcée pour que assure la sécurité ainsi que la police militaire pour essayer de surveiller et contrôler les FARDC incontrôlés. Mais aussi, nous souhaitons que la MONUSCO, qui est venue ici pour la sécurisation donc et la protection des civils et de leurs biens, puisse jouer un grand rôle actuellement, parce que nous sommes en train, nous, de nous poser même la question si nous aurons même la possibilité de faire la sensibilisation ainsi que l'observation électorale. Nous craignons aussi même pour les hommes politiques qui viendront faire le travail donc de campagne par-ci, par-là. Ces projets de campagne, est-ce que tout le monde aura la possibilité de le faire? Donc, il est important. Merci. Pour le gouvernement de prendre des discussions, des engagements
à se serrer avec la MONUSCO et de renforcer la police nationale ainsi que la police militaire pour jouer un rôle en essayant au moins de diminuer la circulation intempestive des éléments incontrôlés des FARDC et de réduire même les gardes dans le véhicule de certains Merci. Officiers de l'armée nationale.
Honorable Justin Bitakwira, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire national de l'Union pour la Nation congolaise, chargé de l'idéologie et formation, également porte-parole de Vital Kamerhe. Toujours parmi les solutions, il y a Maître Daniel Fumu Mawonzi de Kinshasa qui dit « La dénonciation faite par le gouverneur Julien Paluku doit également interpeller la collaboration qui doit exister entre le gouvernement congolais et la MONUSCO sur les questions sécuritaires à l'est de la RDC, bastion de la MONUSCO. » Quel rôle la communauté internationale, la MONUSCO, pourrait-elle jouer dans ce cadre, dans le renforcement de l'armée nationale, d'après vous?
Non, avant de recourir au service de la MONUSCO, nous devons savoir que nous avons un gouvernement qui doit restaurer l'autorité de l'État. C'est d'abord la responsabilité première de tout gouvernement. Donc, la MONUSCO ne peut qu'appuyer les efforts du gouvernement. Mais ici, on se rend compte que l'État ne peut plus protéger sa propre population. Si l'État ne peut plus protéger sa propre population et qu'il est là finalement pour se plaindre, comme l'a fait le gouverneur, au lieu de nous donner les bilans de ce qu'il aurait donné comme rapport à la conférence des gouverneurs et les pistes de solutions que le gouvernement aurait prises au cours de cette conférence de gouverneur, moi je me dis que donc, le Nord Kivu n'a pas été représenté à la conférence des gouverneurs. Donc on ne peut pas recourir à la MONUSCO sans tenir compte des efforts du gouvernement. Alors, pour nous, et pour moi d'ailleurs particulièrement, je dis que la plus grande insécurité au Nord Kivu, comme dans tout l'Est, ou sous toutes les années de la République, est que les militaires doivent être bien payés. Il faut que leurs enfants soient soignés. Il faut que leurs enfants étudient, qu'ils soient scolarisés.
Alors, et vous, en tant qu'acteur politique, en guise de conclusion, en plus de ce que vous énoncez, qu'est-ce qu'il faut par rapport à l'attitude des acteurs politiques pour que les élections se passent bien également dans cette partie du pays?
J'épouse d'abord l'idée du professeur Vergence pour dire effectivement qu'après tout mandat, la population doit savoir sanctionner ceux qui n'ont pas apporté solution à leurs préoccupations, ceux qui n'ont pas répondu à leurs promesses. Alors, pour moi, je me dis que ces 5 ans ici, par rapport à l'insécurité dans le Nord Kivu en général et dans l'Est en particulier, ça a été 5 ans perdus.
Merci, honorable Justin Bitakwira. Professeur Pierre Virgence, un mot déjà en guise de conclusion, dans moins d'une minute, nous allons terminer l'émission.
Oui. Ok, en guise de conclusion, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'outil de la sécurité, c'est l'armée et la police, et c'est en rétablissant la chaîne de commandement et la responsabilité de la chaîne de commandement qu'on remet de l'ordre. Donc pour ça, il faudrait aussi que les responsables de l'armée rendent des comptes aux responsables politiques du pays qui, eux, ont des comptes à rendre à la population. Et là, il faudrait effectivement rétablir une chaîne de commandement efficace à l'intérieur des forces armées et de la police nationale.
Merci, professeur Pierre Virgence. Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, conclusion.
Nous pensons aux sociétés civiles qu'il faut effectivement essayer de voir comment toutes les unités qui sont ici, disséminées sur l'ensemble de la province, que ce soit les FARDC ainsi que la police, soient réellement encadrées par le gouvernement. Et si le gouvernement essayait d'encadrer ces éléments, nous pensons peut-être que il y aurait moins d'exactions sur la population. Et toute l'insécurité que nous sommes en train de subir n'est pas seulement l'effet de FDLR, de ZADF Nalu et de Mai Mai.
Merci.
Les FARDC et la police en est aussi parmi ceux-là qui sont les grands auteurs de tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Juste rappeler que nous n'avons pas pu avoir un délégué de l'exécutif provincial du Nord qui vous retrouve cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.